Bienvenue à l'Université de l'ingénierie. Nous sommes à la fois une université d'entreprise du groupe SNCF, un centre de formation et un laboratoire d'innovation pédagogique. Nous formons chaque année plus de 3500 stagiaires et organisons un cycle de conférences annuelles ouvert à tous les professionnels et passionnés du monde ferroviaire. Cette année, le cycle est dédié au ferroviaire du futur. Au programme, plusieurs tables rondes pour comprendre, se projeter, agir et saisir les nouvelles opportunités. Vous vous apprêtez à découvrir les échanges issus de la conférence numéro 3, intitulée « Adaptation du réseau aux besoins du futur », qui s'est tenue le 2 février 2022 au sein de notre campus. Autour de Vincent Hédin, journaliste et animateur de nos tables rondes, nous sommes heureux de recevoir Michel Etchegaray, directeur général adjoint de la stratégie, de la programmation et de la maîtrise d'ouvrage chez SNCF Réseau, Estelle Masclé, directrice générale adjointe exploitation système de SNCF Réseau, Pierre-Étienne Gauthier, directeur du programme BIM et continuité numérique chez SNCF Réseau, et Pierre-Emmanuel Fayemi, innovation manager au sein de Ecoslab. Bonne écoute!
Bien, bonjour à toutes et à tous. On est le 2 février, mais je me permets quand même de vous souhaiter une très bonne année avec un retour à la normale. La normale, ça voudra dire qu'on n'a plus de masques. Vous voyez qu'on en porte tous sur le plateau, mais dans une entreprise industrielle comme la SNCF, on a quand même une culture de la sécurité qui est importante. Et hier encore, il y avait 300 000 contaminations. On espère très, très sincèrement que bientôt, on pourra les faire sans. Et on va espérer que ce soit la dernière. Nous sommes ici à Saint-Denis, au siège de l'Université de l'ingénierie. Il se trouve que j'ai à mes côtés, à ma droite, Pierre Gibbe. Vous êtes le directeur général de l'Université de l'ingénierie. Tout le monde ne sait pas ce qu'est cette belle institution. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ?
Tout à fait. Alors déjà, je suis ravi de vous accueillir en nombre ce soir pour notre nouveau rendez-vous autour de nos conférences. L'Université de l'ingénierie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes un organisme de formation qui est rattaché à SNCF Réseau. Et chaque année, nous accompagnons la montée en compétences d'ingénieurs, techniciens et cadres dans leurs problématiques autour des compétences ferroviaires du réseau. Nous les accompagnons principalement autour de trois thèmes, la conception des infrastructures ferroviaires, le management de projet pour modifier ces infrastructures et également des formations transverses autour du système, de la sécurité ou développement personnel et management. En tant qu'université, nous sommes aussi un laboratoire d'innovation pédagogique et nous avons à cœur de rendre la formation le plus efficace possible en développant pour ça des parties pris, en modularisant, en développant également nos propres outils. Donc voilà, être un poisson pilote, tester ce qui peut marcher en termes d'innovation pédagogique et le mettre à disposition de nos membres quand ça fonctionne bien. Notre rôle d'université, ce n'est pas que de former et que de faire de la montée en compétences. Et la montée en compétences n'est d'ailleurs pas que de la formation. Donc notre rôle d'université, c'est également de tester, de parler de ce qui est nouveau, de ce qui change, de ce qui évolue. Et c'est pour ça que nous organisons des cycles de conférences régulièrement. Et le cycle que nous faisons en ce moment et auquel nous avons souhaité, donner des conférences, c'est un cycle autour du ferroviaire du futur. Donc nous avons déjà eu deux conférences précédemment. La première qui était sur les mobilités post-Covid. La deuxième qui était sur les partenariats, parce qu'on a besoin de partenariats pour développer le ferroviaire. On ne peut pas tout faire tout seul. Et avec un parallèle assez osé qu'on a fait entre la conquête spatiale et le ferroviaire. Pour la conférence de ce soir, on a choisi un thème sur les adaptations du réseau aux besoins du futur. Et pourquoi ce thème ? C'est pour illustrer que le secteur ferroviaire et le réseau ferroviaire est quelque chose de très dynamique. C'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup d'innovation. Et on a prévu quatre thèmes pour illustrer un petit peu tous ces changements du monde ferroviaire et du réseau ferroviaire. On a prévu le thème de l'asset management. On a prévu également le thème des nouveaux outils et des nouveaux modes d'exploitation pour la performance du réseau. Un troisième thème sur le BIM, Business Information Modeling et la modélisation système, où on verra comment on peut accompagner de manière plus efficace les transformations du réseau. et également un thème un peu plus long terme avec la résilience du réseau face au changement climatique et aux bouleversements qui vont arriver. Donc voilà, si on a bien construit cette conférence comme on le fait quand on développe une réponse pédagogique, à l'issue de cette conf, vous serez capable de parler dans vos familles et à vos amis des quatre thèmes, normalement, avec fluidité et sans problème.
La réponse dans 1h30, 1h35, on verra, mais c'est un beau challenge en tout cas. Merci beaucoup.
Voilà, donc sinon, je remercie aussi chaleureusement l'ensemble de nos intervenants de participer à cette conférence. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir à les écouter. Et puis un petit remerciement spécial à Michel Etchegaray ici, qui accompagne l'UDI depuis sa création, donc depuis une douzaine d'années. Donc merci Michel. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'écoute de cette conférence.
Merci beaucoup Pierre, je vous libère et comme ça en plus on va récupérer votre fauteuil pour faire intervenir, apparaître comme par magie, notre intervenant spécialiste du dérèglement climatique, puisque Pierre vous a donné le sommaire en quatre épisodes. Il me reste à vous dire, avant d'ouvrir cette conférence, qu'évidemment, comme vous êtes extrêmement nombreux à être inscrits, près de 500 pour que cette conférence soit le plus interactive possible, on vous encourage, selon un système que vous connaissez bien, à adresser un maximum de questions sur l'onglet de la plateforme et de les pousser avec des petits pouces verts. Je vois que vous êtes déjà en train de le faire pour que je puisse prendre les plus populaires. Si jamais elles sont trop nombreuses, ce qui peut arriver, les intervenants se sont évidemment engagés à répondre par écrit à l'issue de la conférence, à celle qu'on n'aura pas traitée, mais je vous promets que je vais essayer d'aller très vite et qu'on va en prendre un maximum. Voilà, on va commencer. Alors, nous sommes à distance avec Pierre-Emmanuel Gauthier pour parler du BIM tout à l'heure, et à mes côtés, donc Pierre-Emmanuel Fayemi pour parler des règlements climatiques, et Estelle Masclet sur les nouveaux outils et la robustesse du réseau. Et pour commencer, Michel Etchegaray, donc parrain accompagnateur de l'UDI depuis une douzaine d'années, et par ailleurs directeur général adjoint à la Direction Générale de la Stratégie. Vous êtes monsieur Asset Management, qui est une notion qu'on relie parfaitement à l'univers bancaire, qu'on relie moins à l'univers ferroviaire, et pourtant, quand on veut penser au réseau du futur, il va bien falloir allouer l'argent au bon endroit.
Oui, merci d'avoir pour l'invitation. Et juste peut-être pour bien repriser ce que c'est que cette notion d'asset management ou de gestionnaire d'infrastructure. En permanence, quand on a un réseau, alors qu'il soit ferroviaire ou d'une autre rature, on a toujours cette obsession de se dire au quotidien, il faut qu'il soit performant et dans quel état il sera dans 10 ou 15 ans. Donc au quotidien, je pense que les clients attendent de la sécurité, de la régularité des trains qui fonctionnent d'information voyageurs. Et ça fonctionne essentiellement par de l'exploitation et des coûts d'exploitation. Et puis en permanence, on se pose la question, mais comment sera mon réseau dans 10-15 ans? Et du coup, en permanence, on investit, et notamment la régénération sur laquelle la SNCF investit 2,8 milliards tous les ans, c'est vraiment cette projection. À chaque fois que je remplace un composant à la voie, c'est pour 20 ans. Et donc, je me pose forcément la question, qu'est-ce que sera mon réseau demain en permanence? 2,8 milliards d'investissements sur la régénération, 2,8 milliards à peu près en équivalent sur le développement du réseau. Donc, on voit que cette préoccupation de savoir quel est mon réseau demain, c'est une question qu'on se pose en permanence. Je dirais même que c'est une question qu'on se pose depuis l'origine du ferroviaire. On a eu cette chance-là d'avoir un patrimoine sur lequel les concepteurs dans le passé se sont toujours projetés en disant de créer des ouvrages. Et on a un patrimoine exceptionnel sur lequel la conception, les gens se sont toujours projetés sur la durée et dans le temps. Cette question, d'ailleurs, c'est encore plus accrue avec les derniers montages, notamment avec les PPP, puisqu'on fait actuellement des lignes, on fait évoluer le réseau. Vous avez vu que les dernières lignes à grande vitesse étaient fait ça.
Partenariat public-privé.
Oui, pardon, merci.
Partenariat
public-privé, sur lequel ces équilibres entre les coûts d'exploitation et les coûts d'investissement, savoir quand je fais des travaux sur 7 à 10 ans qui sont lourds, comment ma ligne sera exploitée, c'est une problématique permanente. Alors concrètement, c'est quoi notre vision un peu du réseau dans 10 ans? Le premier point, c'est plus de trains. Je pense qu'on a une chance unique d'une vraie volonté du monde du public sur le ferroviaire. Et notre volonté, clairement, c'est de doubler le trafic voyageur dans 10 à 15 ans. Alors, ça passe par des trains plus capacitaires, augmenter le nombre de trains, mais ça passera forcément aussi par une infrastructure qui sera adaptée. Le deuxième point, puis ça sera évoqué par la suite, c'est un réseau plus résilient. On sait qu'il y a une adaptation climatique, on sait qu'il y a un certain nombre de choses. les incidents sont insupportables pour les clients, il faut que notre réseau soit plus résilient dans 10 ou 15 ans et qu'il soit résilient justement à l'évolution climatique. Et puis c'est un réseau qui répond vraiment aux besoins spécifiques des clients. Et derrière un réseau, en fin de compte, on en a plusieurs. On a bien sûr la longue distance à grande vitesse, qui est une forte attente des clients. On a le fret et on a un besoin qui va encore plus se développer, c'est tout le mass transit dans les villes. Alors si je reprends un peu tous ces éléments-là, quand on regarde au niveau de la carte de la France, on a d'abord à finir notre réseau grande vitesse. Et c'est tous les débats que vous avez actuellement, vous avez vu dans la presse, on voit bien qu'on a un réseau grande vitesse qui s'est déployé depuis Paris et qu'il nous manque en titre de la carte de la France et aussi pour répondre aux besoins de gens, le développement du Sud. Donc c'est tous les projets que vous voyez mûrir portés par les politiques, le Premier ministre en personne, sur l'extension dans le Sud du côté de Béziers, la création d'une ligne nouvelle entre Bordeaux et Toulouse ou sur Bordeaux-Dax. On voit que le Sud de la France actuellement ne dispose pas de la grande vitesse et on poussera aussi sur les lignes sur la Provence Côte d'Azur. Donc, premier besoin, une cartographie, finir le réseau grande vitesse. Ça mettra peut-être 10 ans, ça mettra peut-être 20 ans. Je suis sûr que le bouclage définitif de ce réseau grande vitesse se fera en France. Deuxième point, et peut-être encore plus structurant, je crois qu'on a tous vécu la crise des lignes jaunes et ça a été un choc quand même de réflexion. C'était quoi en partie la crise des gilets jaunes? C'était une crise née d'une crise de l'essence, du prix de l'essence, mais quelque part c'était une crise du transport. C'est-à-dire c'était un certain nombre de gens qui estimaient que leur desserte ne correspondait plus, que les services publics n'étaient plus présents. Et on a un besoin considérable autour de grandes métropoles de développer un réseau qui réponde aux besoins et à offrir un service. On voit que c'était une réussite en Ile-de-France. Les RER structurent complètement la vie au quotidien. Le réseau de métro est complémentaire, mais on a des bus qui amènent au RER. Et le train a tout son sens dans la notion de mass transit pour transporter massivement des gens dans les grandes métropoles. Ce qui existe en Ile-de-France existe d'une manière très faible actuellement dans les grandes villes. Et on voit bien que des grandes métropoles comme Bordeaux, Toulouse, Lyon ont besoin d'un développement de réseaux structurants autour de ce qu'on appelle nous le mass transit, c'est-à-dire là où le train est hyper performant de transporter des milliers de voyageurs par heure. Troisième grand domaine, le fret. Un besoin, la société qui juge que le transport car camion est de plus en plus insupportable, des besoins de développement durable et une aspiration sur le train. Ça passe forcément cette fois-ci par un réseau européen puissant, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème français, c'est forcément un réseau fret européen basé ce qu'on appelle sur des corridors qui permettent, avec des trains qui seraient interopérables, de pouvoir circuler en France. Il y a quelques grands corridors qu'on envisage à cette échéance de 2030-2045. Ça passe par des investissements, bien sûr, sur le matériel roulant, mais aussi sur des adaptations de gabarits, notamment pour transporter des remorques sur les trains. Et puis un dernier point qui est aussi un souci de la société actuellement, c'est tous les réseaux régionaux. On va investir près de 600 millions par an sur ce qu'on appelait alors les petites lignes autrefois, qui répond à un vrai besoin de la société, quelque part, de services publics. Et on a une volonté politique très forte de faire ce réseau-là. On sait que sur les réseaux performants étrangers, les Suisses, etc., ils ont été en capacité d'articuler ce réseau régional avec un réseau national. Donc, quatre réseaux en réalité du futur qui correspondent à un certain nombre de choses. Alors, au total, quand on regarde ça, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le premier point qui est peut-être un peu déceptif, mais moi j'en suis intimement convaincu, c'est que le ferroviaire, c'est d'abord des actifs qui ne vont pas changer. C'est-à-dire dans 15 ou 20 ans, quand on sera au bout de son quai, on aura toujours des rails, on aura toujours des traverses, on aura toujours du ballast. Et quelque part, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a des évolutions de fond. Mais le premier point, c'est qu'on a énormément d'actifs qui vont devenir plus performants, mais vu du client, ils vont peu changer. Et donc ça, c'est peut-être la vision du ferroviaire. C'est aussi, sincèrement, la gare, elle a peu changé depuis le 19e siècle. On a réussi à s'adapter derrière sur des fondamentaux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des choses très simples. C'est par contre des modernisations clés. La sidérurgie fait des progrès considérables. On sait réduire maintenant les périodes d'entretien. On fait moins de bourrage, c'est-à-dire d'intervention sur la voie. On fait moins de meulage, c'est-à-dire d'améliorer le rail, parce qu'on sait mieux intervenir et puis parce que aussi les composants... Donc, le premier point, c'est des évolutions de fond que permet la société. Deuxième point clé, c'est qu'on connaît mieux l'usage qu'on a du réseau et d'une manière claire, un certain nombre de mesures que l'on fait sur le réseau qui permet de mieux cibler les opérations d'entretien, c'est-à-dire d'intervenir juste au moment où la panne va tomber, et puis de mieux cibler aussi à quel endroit je dois remplacer. Donc la première grande révolution, c'est peut-être celle qui ne se verra pas, mais qui, quelque part, permettra que le ferroviaire continue à vivre tel qu'il a été fait. Après, derrière, on aura un besoin de plus en plus de mesures, et pour cibler les interventions telles que je le fais, on change complètement le monde. Actuellement, on utilise des drones pour pouvoir faire, parce que c'est moins intrusif pour faire les mesures à la voix. On utilise énormément d'engins embarqués pour faire la mesure, et demain, c'est les trains que vous prendrez au quotidien qui feront les mesures. Le TGV qu'on développe actuellement, qui s'appelle le TGV 2020, qui circulera entre Paris et Lyon, enregistrera des mesures à la voix. Les trains de nouvelle génération qui vont circuler sur EOL seront des trains qui feront des mesures et qui permettront de mieux connaître l'état du réseau. Donc la donnée sera essentielle dans demain pour mieux connaître les réseaux et son usage. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, j'ai dit plus de trains. Jusqu'ici, quand on demandait plus de trains, on faisait plus de voies et on prenait plus d'emprises. Clairement, c'est les projets que vous avez vus. Alors, ça se passe pour les lignes à grande vitesse. Mais même en Ile-de-France, quand on devait développer le train, vous regardez la plateforme à Saint-Lazare, vous voyez des dizaines de voies. Quand on sort de Saint-Lazare, vous voyez quand même que l'emprise du ferroviaire, c'est quelque chose de considérable. On ne peut plus se permettre d'augmenter notre périmètre. Il est évident que du point de vue écologique, du point de vue impact par rapport à la ville, il faut réussir à faire circuler plus de trains dans la même emprise. Et ça, on a une chance unique, c'est que la digitalisation, ce que va présenter Estelle au titre de l'exploitation, les modifications de la signalisation nous permettent de faire passer plus de trains sur un réseau existant. Et ça, c'est la deuxième grande révolution. On va passer par exemple sur les systèmes de télécommunication de technologie 2G actuellement qu'on utilise sur la radio à la technologie 5G. Alors c'est pas juste le plaisir technique, c'est que du coup ça fait passer des données qui permettent d'échanger entre l'infrastructure et le train et d'avoir un niveau de sécurité qui soit complémentaire. On va modifier la signalisation, c'est ce qu'on fait sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon, et on va pouvoir faire passer de 12 trains à l'heure actuellement sur cette ligne, on va passer à 15. Et donc là aussi on offre 100, je dirais, sans que ce soit visible du client, des services nouveaux. Donc ça, c'est une vraie révolution qui va s'engager. Puis la troisième, moi, je la crois encore plus forte, parce qu'elle est encore plus attendue, c'est qu'il faut que le train soit pas cher. Je pense qu'on l'a bien vu d'une manière claire. On peut pas, nous, décréter qu'il y aura deux fois plus de voyageurs si, clairement, le train n'est pas cher. Donc on a une obligation de réduire nos coûts et donc d'avoir une exploitation plus performante. Et aussi, au titre des opérations maintenant, vous avez bien compris. Et quelque part aussi, une notion très très forte sur laquelle on s'engage de manière très forte, c'est sur le développement durable. On est intimement convaincu que pour réduire les coûts du ferroviaire, l'économie circulaire, notre capacité à réutiliser des composants, je vais vous donner un exemple concret, on réutilise des rails déposés, des lignes à grande vitesse, pour les mettre sur les lignes régionales. Cette économie circulaire, elle correspond à la fois à un besoin très fort de la société et permettra que le train soit plus frugal et plus économe. Et ça, je pense que c'est une évolution claire. Et puis un dernier point par rapport à ce qui va être dit tout à l'heure. Révolution numérique, ça aidera au titre de la conception et bien sûr le BIM va y contribuer. Réseau résilient, parce qu'on sait pertinemment que le ferroviaire devra s'adapter. Et par rapport à la dernière intervention, ça nous paraît vraiment essentiel d'anticiper ce changement climatique sur un réseau plus résilient.
Merci beaucoup. Avant de passer à Estelle, il y a une question qui arrive pour vous tout de suite. Et comme il y a énormément de pouces, je m'en voudrais de la rater. On vous demande si vous n'êtes pas un petit peu optimiste en ce qui concerne les corridors pour développer. J'imagine que c'était au moment du fret. Pour les corridors, n'est-ce pas un peu tard? Parce que les trafics ont été captés par les pays à l'est de la France, vous faites remarquer.
Alors ça, c'est un grand enjeu. Hein. C'est ce qu'on appelle la banane, de savoir si les trains vont passer par l'Allemagne, Suisse ou par rapport à la France. Ça, c'est clair. Moi, je suis plus basique que ça. C'est pas forcément. Dans le ferroviaire, je pense pas qu'il faut s'opposer entre ferroviaire et ferroviaire. La grande bataille, c'est de savoir si on veut faire passer des camions sur le train. C'est pas de se dire si on passe. Et d'une manière claire, ce que l'on fait actuellement, qui sont plutôt des trafics entre les ports français, par exemple le Havre, l'artère qu'on est en train de créer entre Cherbourg et Mouguère, les grands axes qu'on a fait entre un axe Bettembourg et Perpignan, ils répondent d'abord pas à aller chercher les autres trafics ferroviaires, mais à réussir à faire passer des camions sur le train. Et là, l'enjeu, c'est vrai que c'est compliqué, hein, je vais être honnête, hein, d'une manière aussi bien technique, notamment pour des sujets aussi de gabarit. Je pense que vraiment, ça correspond à un besoin de la société.
Eh ben merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui nous suivent, on peut faire de l'interopérabilité entre conférences. Vous pouvez retrouver les replays des deux premières conférences sur lesquelles le fret a été largement abordé, notamment par Laurence Berru du Grand Est, qui évidemment travaille beaucoup avec l'Allemagne et la Suisse. Et dans la deuxième conférence sur les partenariats, on a bien expliqué le partenariat entre la SNCF et les voies navigables de France pour justement damer le pion au camion. Et ça avait l'air d'être tout à fait jouable, notamment financièrement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le climat, ce qui évidemment vous ravira vous, Pierre-Emmanuel, mais ce qui nous ravira tous, en fait. Estelle Masclet, vous êtes récemment devenue directrice générale exploitation système. Voilà, je ne voulais pas écorcher votre titre. Michel disait dans son introduction qu'il y avait des intangibles avec le ferroviaire et qu'au fond, les gares n'avaient pas tellement changé depuis le 19e siècle. Les outils, si. Les outils beaucoup et les outils d'information à la fois dans les trains et à destination des voyageurs, ils avaient beaucoup changé. Donc c'est une partie de votre intervention, c'est de nous dire comment ceci va encore se modifier dans le futur. Évidemment, comme on va parler futurologie, pour vous aider, vous qui nous suivez à distance, Estelle a prévu une petite présentation avec quelques slides qui vous permettra de mieux visualiser ses propos.
Merci Vincent, et merci de l'invitation et puis surtout merci à tous de vous être connectés nombreux ce soir. Alors du coup, pour parler de nouveaux outils d'exploitation, moi je voudrais essayer d'éviter de faire un catalogue de nouveaux outils et donc plutôt aborder le sujet au travers des enjeux de l'exploitation et donc suivant différents horizons de temps. Et aussi pour bien accentuer que l'exploitation, elle ne commence pas loin s'en faut dans les postes d'aiguillage. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en amont ou dans les coulisses. Et donc, comme le disait Michel à l'instant, les choses commencent en fait dès la définition de la stratégie. Et surtout, les choses commencent aux besoins du client. Au commencement est toujours le client. Parce que le client, il n'a pas besoin de la même performance partout sur le réseau. On va être amené à différencier les réponses que l'on va lui apporter. Donc peut-être pour bien resituer les différents process, rappelons-nous ce qu'est la déclinaison stratégique pour un gestionnaire d'infrastructure comme SNCF Réseau. On part bien de la définition des besoins du client. Et ensuite, en fonction des usages que l'on attend du réseau, on va être amené à définir des segments internes sur ce réseau. Ces segments, ils sont définis suivant différents critères, les types de trafic, l'intensité d'usage et la localisation en fonction de si on se trouve sur un nœud ou sur un axe. C'est donc très important de savoir à quoi on répond et où est-ce qu'on va apporter notre réponse. Une fois qu'on a défini ces classes de segments, et donc Michel parlait de mass transit, de haute performance, de segments standards, voilà les catégories que l'on va définir. Et pour chacune, on va apporter une solution qui est la réponse aux justes besoins que l'on attend. Et donc cette réponse, c'est ce qu'on va appeler un standard d'exploitation. Et pourquoi c'est important d'avoir des standards? Ça évite de tomber dans deux pièges. Le premier, c'est la régénération à l'identique. Je ne me pose pas de questions. Je remplace ce que j'avais quand c'est arrivé en fin de vie. Et ça, du coup, on l'a bien compris dans l'asset management, c'est l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Et l'excès inverse, qui est le sur-mesure systématique, qui peut conduire donc à un mitage d'installation sur le réseau ou à développer des projets complexes et donc les mettre en risque d'un point de vue coût ou délai. Ces standards d'exploitation, ils sont donc décrits dans des guides qui vont prochainement sortir dans une version 1, sûrement à la fin du trimestre, qui nous permettra ensuite de décliner des solutions techniques, de les mettre en œuvre et ensuite d'adapter nos moyens. Et c'est comme ça qu'on construit notre activité. Pour illustrer par deux exemples de standards, je voudrais peut-être pointer une nouvelle offre qui est apparue dans la réalisation de cet exercice. Michel l'a abordé tout à l'heure, ce sont les réseaux express métropolitains pour répondre aux besoins de mobilité accrue dans les villes. Eh bien, ça fait l'objet d'un standard. Comment on décrit ce réseau express métropolitain ? Des trains plutôt le matin, des trains plutôt le soir, une offre cadencée. Voilà, comment on l'articule avec les besoins travaux avec la saturation des nœuds. Deuxième exemple, sur les segments dits standards, ceux qui sont qui correspondent à la partie la moins utilisée du réseau, là on a une gamme de réponses qui va du low cost de l'exploitation en navette à une exploitation plus onéreuse appelée Next Regio, qui repose sur de la voie banalisée, des compteurs d'essieux, des métazones, une exploitation en CCR. Voilà, donc du coup, différentes réponses possibles. Mais du coup, ne nous y trompons pas, standardisation ne veut pas dire uniformisation. Et notre réseau, il reste d'usage mixte. On y fait circuler des trains de fret, des trains long parcours, des voyageurs du quotidien, des trains de nuit. Donc, il faut qu'on garde cette capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation aussi à la volatilité du marché, pour répondre à des nouveaux arrivants, pour s'adapter à des crises, qu'elles soient économiques ou sanitaires, à la saturation des nœuds, à l'augmentation de la régénération. Donc, pour rendre possible la croissance des trafics, il faut non seulement l'organiser, ça c'est ce qu'on vient de voir, mais il faut aussi l'anticiper et surtout il faut la concerter. Ça, ce sont les deux jambes de ce qu'on appelle la conception. Et du coup, comment on fait ça, cette concertation ? Eh bien, on utilise un dispositif qui est né en 2015 sur l'axe Seine, qui s'appelle les plateformes de services et d'infrastructures, qui découle d'un besoin de concertation accrue entre l'État, les entreprises ferroviaires, les acteurs du fret, et SNCF Réseau. Et ces plateformes sont un lieu d'échange, de concertation, placé sous le signe du pragmatisme pour arriver à concilier la vision moyen terme, les besoins des différentes parties prenantes et la capacité à trouver des solutions. Alors, elles servent à quoi, ces plateformes services et exploitation ? Eh bien, elles servent justement à faire de la programmation à moyen terme. Elles cherchent à tisser des liens entre les outils de programmation des investissements que sont les contrats de plan État-Région et la planification à moyen terme voulue par le Conseil d'orientation des infrastructures. Donc ces plateformes, elles ont été mises en place progressivement entre 2020 et 2021. Elles connaissent des débuts plutôt encourageants et elles ont vocation à produire à horizon de l'été 2022 des plans d'exploitation émergents qui vont du coup formaliser le résultat de cette programmation moyen terme et de cette concertation. Alors un plan d'exploitation émergent, ça ressemble à ça. Et du coup, on y couche nos besoins à moyen terme pour avoir une vision à 10 ans. Voilà, un plan d'exploitation émergent dans la zone nord horizon 2030. Et c'est la vision de ce que l'on attend en termes d'offres et d'infrastructures. Ces plans d'exploitation, on les décline ensuite dans des plans d'exploitation de référence à horizon A-5. Ils reposent du coup sur des hypothèses et des cadrages plus fins qui vont permettre d'alimenter d'un point de vue asset management, la commande stratégique de production, et d'un point de vue processus horaire, ce qu'on appelle la pré-construction. Donc nous voilà sur les process de l'exploitation.
Juste pour être sûr d'avoir bien compris, A-5, ça veut dire à 5 ans par rapport à l'échelon...
Exactement. Okay. Voilà. On va produire à l'été 2022 les plans d'exploitation émergents 2030, donc le fameux A-10, et ensuite on va les décliner dans des plans d'exploitation référents, donc A-5, c'est plutôt horizon cette fois 2026-2027. Et du coup, l'élaboration de ces plans d'exploitation et aussi des études d'exploitation qu'on réalise en amont de chaque projet pour en vérifier l'atteinte des objectifs et la performance a priori, elle nécessite des outils spécifiques, fiables et relativement puissants pour arriver à faire tourner un certain nombre de modèles. Aujourd'hui, ces outils, aujourd'hui, on est face à une gamme relativement large d'outils d'exploitation utilisés par la communauté des études d'exploitation, que ce soit à SNCF Réseau ou par nos prestataires. Et cette largeur de la gamme n'est pas sans poser des problèmes. D'abord parce que les outils ne sont pas propriétés de SNCF Réseau. Ils ne permettent pas des résultats qui soient systématiquement comparables. Ils ne sont pas toujours pérennes, ce qui rend difficile la réutilisation des données ou des hypothèses dans le temps long de nos projets ferroviaires. Et puis, ils ne permettent pas toujours de travailler avec une infrastructure évolutive, qui est pourtant ce qu'on cherche à tester. Donc, l'entreprise a fait le choix de développer un outil qui lui serait propre, et de le développer suivant l'open source. Cet outil s'appelle Open Source Railway Designer, OSRD, et il est actuellement en cours de développement. Alors du coup, c'est quoi l'open source? Eh bien, c'est le fait de laisser en libre accès le code source du logiciel, afin que tout le monde puisse le lire, l'utiliser, et éventuellement proposer des modifications, évidemment dans le respect d'un certain nombre de standards et des règles de cybersécurité. Et du coup, quel est l'intérêt de procéder de la sorte? Eh bien, c'est de diminuer et d'optimiser les coûts de développement en mutualisant une partie avec la communauté des développeurs. C'est de répondre aux besoins de transparence sur nos choix d'investissement et la façon dont sont réalisées les études. Et ça permet aussi d'assurer la pérennité de l'outil en réduisant notre dépendance au marché. Voilà. Pour témoigner des ambitions de la communauté et même de l'UIC sur cette approche, après avoir déposé la marque OpenRail en 2019, l'UIC vient de créer en décembre 2021 la fondation Open Source Ferroviaire, dont SNCF sera un des membres premium. Et aujourd'hui, SNCF Réseau et notamment la Direction Générale Exploitation Système est en pointe pour développer cet outil et proposer l'activation de solutions pour simuler l'utilisation de la capacité de dernière minute suivant le modèle du click and ride. Quand on a fait tout ça, on peut effectivement pousser la porte du poste d'aiguillage. On est prêt à travailler, à aborder la performance de l'exploitation opérationnelle. Et là, on va retrouver les outils industriels qui font la performance, on va dire, de la réalisation du service à l'instant T. Le premier de ces outils auxquels on pense, évidemment, c'est la commande centralisée du réseau, ces fameuses tours de contrôle de la circulation, dont on envisage environ une vingtaine de centres qui ont vocation à remplacer pas moins de 1500 postes d'aiguillage actuels sur le réseau. Ces CCR, elles tirent de la performance, alors d'abord en termes de productivité, hein, parce qu'on voit bien que la concentration qu'elles permettent vont optimiser les ressources nécessaires pour les exploiter. Mais cette concentration, elle permet aussi, en réduisant le nombre d'interfaces, d'améliorer la robustesse. Quand un train traverse un nœud majeur du réseau, il est parfois pris en charge par 3, 4, 5 postes d'aiguillage. Aujourd'hui, il est tracé de bout en bout par le même opérateur, ce qui nous permet d'avoir une vision bien plus juste de son parcours, les éventuels conflits et l'optimisation du tracé fin au sein du nœud. Ensuite, il y a des vecteurs de performance possibles grâce à l'automatisation. L'outil avec lequel on exploite ces commandes centralisées du réseau que vous voyez sur l'image, qui s'appelle l'outil Mistral et demain l'outil Mistral Nouvelle Génération, automatise un certain nombre de fonctions qui auparavant étaient réalisées par les opérateurs. L'ouverture automatique du signal à l'heure dans une gare, la réalisation automatique des protections de travaux. Et puis surtout, il utilise ce qu'on appelle la programmation des trains, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'outil le plan de transport tel qu'il a été conçu pour une journée donnée, et l'outil propose l'ordonnancement des trains et donc optimise les gestes métiers pour l'opérateur. Donc ça, ce sont les outils d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres outils dont on prépare l'arrivée pour demain qui permettront d'aller encore plus loin. Ce sont typiquement des outils que l'on va déployer sur les grands corridors et sur les segments haute performance, si on revient à la segmentation interne telle que je l'évoquais au début de mon propos. Cet outil, c'est l'outil de l'ERTMS qui a vocation à être déployé donc sur les grands corridors européens, associé à l'assistance à la conduite dans une vision cible. Alors, je ne vais pas détailler en détail la technologie ERTMS parce qu'elle mériterait une conférence à elle toute seule, mais on voit assez bien sur le petit schéma qu'en s'affranchissant d'une logique de cantonnement pur et en utilisant des communications haut débit et d'un grand nombre de données entre les mobiles et entre les mobiles et le sol, on arrive à optimiser la courbe de vitesse et donc la courbe de freinage et donc à iso-infrastructure, comme le disait Michel, de faire passer un plus grand nombre de trains. Donc là, les bénéfices en termes de performance, c'est l'interopérabilité, c'est l'augmentation du débit, c'est l'amélioration de la régularité par l'optimisation de la courbe de vitesse des trains et pour les entreprises ferroviaires, une optimisation des consommations en énergie. Voilà. Et pour boucler cet horizon de temps, puisque là on est arrivé jusqu'à l'opérationnel, je voudrais quand même citer aussi le développement des simulateurs, ou simulateurs de formation, qui ont des bénéfices sur l'ensemble des horizons de temps, en amont de la mise en service d'un poste ou dans le développement d'un projet, eh bien ils permettent de tester un certain nombre de fonctionnalités, d'entraîner les opérateurs. Et puis sur l'opérationnel, voire le post-opérationnel, ils permettent justement de former les opérateurs et donc de les entraîner au traitement des aléas. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce qu'on a abordé là, en regardant le prisme des outils, les outils ne vont jamais remplacer complètement les opérateurs. Et donc tout l'enjeu, c'est bien que l'opérateur trouve la meilleure plus-value avec l'usage de ces outils. Et donc pour ça, il faut l'entraîner et on a besoin de savoir développer donc des outils d'entraînement performants que sont ces simulateurs. Voilà du coup pour un tableau, j'espère, un peu complet de l'exploitation.
Assez exhaustif et qui montre beaucoup d'innovations. Il y a une question qui est arrivée et qui a énormément de pouces. La personne donnant son identité, je vous la donne. Il s'agit de Judicaël Déhautin, je ne sais pas si vous connaissez, mais il vous demande à propos des standards d'exploitation, est-ce que c'est une vision standard au niveau européen, mondial, ou est-ce que c'est une spécificité SNCF? Et si c'est uniquement SNCF, comment le contexte d'ouverture européen impactera-t-il ces standards?
Alors la question est excellente. À ma connaissance aujourd'hui, c'est plutôt une démarche française. Elle vise du coup à outiller la communauté des asset managers hein, et à vraiment bien guider la logique suivant laquelle on conduit nos investissements et en tout cas suivant laquelle on les choisit. En revanche, les outils qui sont dans ces standards et donc la gamme qui sont proposés, ils tendent à être de plus en plus effectivement européens ou plutôt, j'allais dire, interopérables, puisque c'est bien l'enjeu hein, d'aller vers un effacement des frontières et donc une interopérabilité plus forte.
Juste petite question ouverte pour vous deux avant de basculer à distance. Vous avez l'air très serein et de savoir complètement où vous voulez aller sur un horizon très long, alors que tous les sociologues nous expliquent à longueur de temps depuis 2 ans que le Covid, c'est avant tout une crise de l'incapacité à se projeter, puisqu'il n'y a plus de devenir certain. Les aléas sont permanents et ça impacte évidemment forcément très fortement votre activité, parce que selon qu'on décide, qu'on généralise le télétravail ou qu'au contraire, on peut retourner, votre activité, elle change du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on fait la balance entre court terme, sans cesse remis en terme, et forcément long terme, puisque vous parliez des investissements. Vous disiez au début, Michel, quand on met une pièce sur le réseau, elle est là pour 20 ans. Donc.
Bah, déjà, on est un bon exemple de ce qui s'est passé les 2 dernières années. Je pense que le ferroviaire a démontré sa capacité d'adaptation d'une manière exceptionnelle. On nous a demandé de faire passer du trafic fret. Le réseau ne s'est jamais arrêté. C'était la première demande. On a adapté complètement le réseau et je pense qu'il y a eu à peu près une vingtaine de plans de transport tous les ans pour répondre à les différentes étapes de la crise sanitaire. Et donc, on est assez serein pour deux raisons. Parce qu'on a d'abord montré notre capacité à nous adapter. Et je pense que, clairement, il y a un certain nombre. Alors, les clients, d'abord, sont revenus dans les trains, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Je pense que vous avez dû le voir. On n'est pas du tout une entreprise qui est en crise par rapport à la crise de confiance. Du point de vue politique, je pense que les gens se sont rendus compte qu'on a répondu à la demande, notamment sur le trafic fret. Et puis, le deuxième point, je pense qu'on partage tout. Il y a un enjeu de climat sur lequel le ferroviaire, c'est quand même exceptionnel. On a une technologie du 19e qui, sur laquelle il y a une électrification qui est la porte de sortie sur les transports du futur. Donc pour ça, on a l'air serein. Alors, ça ne veut pas dire que le quotidien est facile, mais d'une manière claire, si nous on était angoissés alors que les clients sont dans les trains et que ça correspond aux besoins de la société, je me demande quelle entreprise serait sereine.
Oui, et puis peut-être pour compléter, le fait de se projeter sur l'avenir ne veut pas dire non plus qu'on garde pas cette capacité à s'adapter. Et le développement de la logique des standards, elle s'étend y compris sur l'opérationnel. On va jusqu'à développer des standards de gestion de crise. Et ensuite, sur les tendances, peut-être sur des horizons plus courts, on a aussi la possibilité de savoir ajuster l'offre et donc d'avoir des scénarios, des plans qui ont été préétablis. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Puis enfin, ce qui nous rend peut-être si serein, c'est que il y a un alignement des planètes, ou en tout cas l'expression d'une volonté forte pour développer l'activité ferroviaire. Donc ça renforce pour nous la nécessité de faire les bons choix d'investissement, de développer les justes réponses et de le faire en ayant vraiment comme guide le besoin client et la stratégie de l'entreprise.
Alors j'ai énormément de questions qui sont arrivées, on va se garder un temps pour les questions à la fin, mais là comme j'en ai qui sont vraiment très très calendaires, je pense que vous pouvez répondre en deux secondes. À quelle date OSRD, donc Open Source Railway Development, sera-t-il pleinement opérationnel? Ça c'est une. Je vous souhaiterais savoir où on en est le déploiement de SIPH. Merci. Voilà. Ça fait
deux. Alors pour Open Source Railway Designer, quand est-ce qu'il sera complètement opérationnel? Alors ça sûrement dans très longtemps, parce qu'on en attend beaucoup de développement, ou en tout cas c'est un outil pour lequel on voit un très fort potentiel. Donc sa vision cible, elle est sûrement lointaine. Les premières fonctionnalités, on les attend quand même dans l'année. Donc 2022 devrait être l'occasion de premières réalisations concrètes avec OSRD. Et ensuite sur SIPH, c'est le système d'information de production horaire, donc l'outil qui outille les horairistes, ceux donc qui conçoivent les grilles de train. Alors quelle était la question?
Je souhaiterais savoir où en est le développement et le déploiement de SIPH.
Alors, il est plutôt bien abouti aujourd'hui, après un démarrage pour les spécialistes et ceux qui ont suivi un peu dans la douleur pour le service annuel 2021, donc en décembre 2020. Mais aujourd'hui, il est utilisé par toute la communauté des horairistes. Il fait l'objet de développement et d'upgrade régulier. Donc, c'est comme on dit dans le langage numérique, on est en phase de full run et on n'a pas d'inquiétude par rapport à l'outil.
Course pleine. On fait attention évidemment à l'Université de l'ingénierie d'être au maximum en français, donc course pleine. Voilà. Merci à toutes et à tous pour ces dizaines de questions qui arrivent. Je vous promets à celles qui ne sont pas encore prises qu'on va les prendre à la fin, mais évidemment je m'en voudrais de rater la fin du premier tour de table. Et donc on va rejoindre Pierre-Étienne Gauthier, vous êtes toujours avec nous?
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes le directeur du programme industriel BIM et continuité numérique chez SNCF Réseau. Donc on va parler de ce fameux BIM que vous allez nous... acronyme que vous allez nous dévoiler, et puis vous allez nous parler un petit peu modélisation système, comme a dit Pierre en introduction. On a avec vous une petite vidéo qui montre effectivement les avantages incroyables que permet le BIM sur le chantier EOL, et vous nous direz à quel moment vous voulez la présenter, mais peut-être il faut d'abord qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance avec le BIM avec vous.
Voilà, merci, oui. Je vais d'abord vous présenter le BIM et la continuité numérique. Alors, le BIM pour Building Information Modeling, c'est en fait d'abord et avant tout un outil de collaboration entre tous les acteurs du projet et tous les acteurs. Le BIM va s'étendre des études amont, où on peut communiquer avec le maître d'ouvrage, à la réalisation des études, puis il passe au niveau de la construction, et ça va devenir ce qu'on va appeler le jumeau numérique pour l'exploitation maintenance, et c'est cette collaboration autour d'une maquette numérique qui va s'enrichir d'informations qui vont être actualisées tout au long de la vie du projet, qui constitue en fait le cœur de ce changement de paradigme qu'on va avoir. Alors, cette notion de partage en fait vis-à-vis de tous les acteurs du projet d'un ensemble d'informations qui s'articule autour d'une maquette numérique, ça nécessite bien entendu d'avoir des plateformes qui servent de support à cette collaboration. Et donc ce qu'on a commencé par faire pour mettre le BIM en œuvre dans l'entreprise, et on va voir le partager avec l'ensemble des acteurs de la filière ferroviaire, c'est d'abord de choisir une plateforme qui soit la plus agnostique possible, parce qu'on a plein de métiers à faire travailler autour du BIM, avec plein d'outils différents qu'il faut agréger, et des maquettes qu'il faut agréger ensemble pour qu'elles puissent se parler et que tout le monde puisse comprendre. Et donc on a mis en place cette année un environnement commun de données, après une phase d'expérimentation d'un an et demi, qu'on partage d'ailleurs avec Gare et Connexion sur l'ensemble de nos projets, et ce qui va nous permettre d'accompagner la genèse des projets depuis les études amont, puis les études elles-mêmes de réalisation, et on va le voir dans le film, accompagner le projet aussi dans sa phase de construction. À ces maquettes qui s'appuient sur des objets, on associe là aussi une bibliothèque de référence BiblioBIM. Alors, je vais faire un petit clin d'œil, on va aussi beaucoup parler d'OpenBIM et de notions d'ouverture. Cette bibliothèque, elle est ouverte et elle va s'ouvrir à l'ensemble des acteurs. On est en train de l'ouvrir à l'extérieur pour qu'on ait une économie dans la création de nos objets BIM et qu'on partage tous les mêmes objets sans avoir à les recréer et bien entendu sans avoir à faire des erreurs lors de cette création. Alors, actuellement, on a plus de 160 projets à date, de toute taille, qui vont de projets amont à des projets qui passent en phase de construction, et puis des ensembles relativement importants, comme les ensembles des holds, sur lesquels on va pouvoir parler tout à l'heure. Donc, le BIM couvre un ensemble de projets complètement importants dans notre portefeuille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire du BIM sans un minimum de formation. Et on a démarré des formations à partir de 2017 où on avait plutôt des formations technologiques aux outils. Et en fait, là, je voudrais saluer quand même l'initiative de Pierre et son répondant et celui de ses équipes. On a développé depuis 2 ans, avec l'UDI, un programme de formation qui s'est accéléré en 2021, en 2020 et 2021, en doublant en 2021 l'effort de formation 2020, tout ça pendant la période Covid. Sur la base de formation généraliste qui se développe en même temps comme un parcours de qualifiant finalement sur l'ensemble des outils et qui permettent de former l'ensemble des acteurs à la pratique du BIM, à la fois du point de vue du management du projet et puis à la fois du point de vue des outils. Et ce programme est évolutif, est en cours de construction. Alors ce programme, il intéresse déjà la RATP qui participe avec nous, et il intéresse aussi les entreprises de construction et certaines des ingénieries, donc le syndicat des études des entreprises de travaux de voie et puis des ingénieries comme Sistra qui participe avec nous. Et donc l'ambition, c'est de faire autour de ce programme une académie. Et là, je vais rejoindre ce qui a été dit au niveau européen. On a une coopération avec les Allemands où on a évoqué l'idée de faire une académie européenne, et il y a un projet européen actuellement autour de la formation aux nouvelles technologies appliquées au ferroviaire, où le BIM va avoir une bonne place. Alors, pour mettre en œuvre le BIM, on a aussi besoin d'accompagner les acteurs. Alors, on a mis en place des accompagnements pour les maîtres d'ouvrage, pour savoir faire un BIM économe et qui ne soit pas générateur d'activité, qui ne soit pas complètement utile aux objectifs premiers du projet. On encadre les maîtres d'ouvrage et on leur offre des services digitaux qui permettent d'être le plus performant en BIM dès le début. On le fait aussi pour les maîtres d'œuvre, donc les PRI, et tout ça, ça s'appuie sur un ensemble de documentation qu'on a établi, qui est partagé avec l'ensemble de nos ingénieries, mais qu'on a aussi ouvert aux ingénieries externes avec lesquelles on travaille en sous-traitance, et qu'on ouvre en même temps aux acteurs de la construction, ce qui fait qu'on va avoir un ensemble de référentiels pour le BIM qui sont partagés avec l'ensemble de la filière ferroviaire française. Et je dirais quelques mots aussi tout à l'heure du fait que les têtes de chapitre et la structure de ces documents sont aussi, bien entendu, la physique est un peu la même partout, partagés avec nos collègues européens. Alors, la stratégie qu'on a, c'est justement de nous aligner avec nos collègues. En particulier, on a depuis 3 ans une coopération assez approfondie avec les chemins de fer allemands, donc la Deutsche Bahn, sur les pratiques BIM et la prescription. On travaille aussi au niveau de l'Union internationale des chemins de fer, au sein de laquelle je pilote l'action de modélisation digitale, pour pouvoir développer, au-delà de la modélisation des objets, la modélisation fonctionnelle pour répondre à ce que disait Pierre tout à l'heure, qui va permettre de comprendre à quoi servent les objets BIM qu'on met dans les projets et comment pouvoir représenter le fonctionnement des systèmes ferroviaires à terme au sein d'une architecture qui sera partagée au niveau européen. Et puis ces objets BIM ferroviaires, on va les faire passer à partir de l'année prochaine dans une norme ISO, et on a travaillé avec, à ce moment-là, l'ensemble des acteurs complètement internationaux au sein d'un groupe qui est piloté par des acteurs de la construction. Et là, il y avait des acteurs européens, mais les chemins de fer chinois étaient aussi avec nous. Et je terminerai en disant qu'en fait, on est en train, au niveau français, de mettre en œuvre un programme dont on espère, et on a de bonnes raisons d'espérer, qu'il va être financé par les pouvoirs publics dans le cadre du plan de relance, qui s'appelle MINERVE, et qui va permettre de mettre en œuvre et de partager nos pratiques du BIM, à la fois au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance dans le cadre de ce qu'on appelle le jumeau numérique, avec un focus particulier aussi sur les notions de résilience vis-à-vis du changement climatique. Il y a un volet sur lequel apparaîtra, parce qu'il y a des actions de recherche à faire, l'École centrale Supélec et l'Université de Paris-Saclay, mais aussi des startups comme Kairos, qui sont hyper pointues en intelligence artificielle et qui vont nous aider à analyser et prévoir ces phénomènes. On n'oubliera pas l'ensemble des ingénieries et des acteurs de la construction ferroviaire qui vont contribuer au projet au sein d'un projet qui va être adossé et piloté par un institut de recherche de la FNTP. Et l'enjeu de tout ça, c'est de gagner en performance, donc d'avoir une meilleure transparence et une visibilité sur l'avancement des projets, de gagner des coûts en anticipant sur les conflits qu'on peut faire et de ne pas faire et vous le verrez dans le petit film, des erreurs dans le positionnement des réseaux, etc., qui vont venir impacter et qui nécessiteraient des modifications coûteuses au moment où on va faire la construction. Pouvoir mieux gérer en anticipant les changements de programme qui sont une des causes majeures de dérive des projets, et puis anticiper et préparer les travaux d'entrée en maintenance, donc limiter les reprises de travaux, résoudre en avance les problématiques chantiers, et puis bien entendu optimiser l'approvisionnement en matière. Et là, je pense que ça va être le moment de vous faire voir le petit film où on montre que le BIM n'est pas qu'un outil de bureau d'études, mais que le BIM maintenant arrive sur le terrain. Voilà.
Donc là, je suis pile sur mon appareil, en fait.
Ouais, t'en vois que ce qui est là aujourd'hui.
D'accord.
Et après, quand en rajoutant sur brillance, en fait, on voit la future voie.
Nickel.
Ce matin, on est allé à Mantes-la-Jolie pour faire le déploiement d'une nouvelle technologie qu'on met en place dans le projet La Mante, qui est la réalité augmentée. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut amener des objets virtuels sur le terrain pour que les gens du terrain puissent identifier quand ils font un trou, s'ils font un trou à un endroit où il va y avoir un escalier plus tard, un mur, et nous alerter, dire c'est bizarre, on est en train de creuser là pour faire un massif alors qu'il y a autre chose qui arrive. Donc on était en rencontre des gens du terrain pour leur montrer et voir les fonctionnalités qu'ils pouvaient utiliser.
Je pense que ça, c'est la semelle du futur escalier électrique.
C'est ça, c'est le viaduc, c'est ce qu'on a mis dans la maquette.
L'utilité, c'est de ne pas faire des travaux qui devront être refaits 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Donc en fait, on va gagner du temps avec les entreprises qui sont fortement sollicitées. Et puis on va gagner de l'argent parce que ne pas faire 2 fois les travaux, on gagne de l'argent naturellement, quoi.
Là, en fait, par rapport à la position de la traverse, en fait, la future voie, elle sera plus haute.
Ouais. Ce matin, on est venu confirmer sur le terrain les inquiétudes qu'on avait découvertes sur les plans, principalement de la phase 1.
Là, on se rend compte que les 2 piles de la future passerelle se retrouvent dans la zone des caniveaux RER qu'on aurait positionné lors de la phase 1.
Donc les piles ne sont pas forcément sur les caniveaux, mais la zone de terrassement sera fortement en interface avec le caniveau qu'on a mis en place.
Le caniveau, on va le recentrer exactement entre les deux séries de piles de l'ouvrage.
Là, on voit le rehaussement de futur.
Au-delà déjà de pouvoir avoir la visualisation en temps réel de ce qu'il y aura après, c'est déjà très impressionnant, c'est de pouvoir prendre des mesures et de savoir par exemple qu'à cet endroit-là, il y aura la platine d'un signal et on peut la coter très précisément par rapport à l'existant. Je sais qu'il sera à 42 cm par exemple ici précisément et du coup ça permet de traiter presque l'interface tout de suite sur site quoi. C'est une vraie plus-value par rapport à ce qu'on peut faire devant un ordinateur par exemple où là déjà on peut peut-être avoir la différence entre l'actuel et le futur, mais de pouvoir être sur site vraiment à l'emplacement du problème en fait qu'on a retrouvé sur les plans, de pouvoir le traiter presque tout de suite, ça c'est, ouais, c'est une vraie plus-value qui intéresse d'ailleurs la maîtrise de travaux.
Du coup là on constate l'existant et petit à petit je vais faire apparaître le calque du projeté. On peut constater que ça superpose parfaitement.
Ouais, c'est du gagnant-gagnant.
Que ce soit pour le haut, les piles ou l'infra.
Je suis vraiment impressionné par cette application. Si j'ai un agent avec cette application qui vient sur le chantier et qu'il puisse directement et en temps réel remarquer la différence entre les profondeurs de terrassement, les longueurs de terrassement ainsi que la pose de la voie, ça me facilite la tâche.
Avec les deux tournées de la semaine dernière et de cette semaine, on a mieux défini le potentiel de l'application. D'abord sur la réceptivité des gens, c'est-à-dire que c'est un outil qui est simple et qui est tout de suite utilisable avec un clic. Donc ça, c'était hyper important. Le potentiel, bah, il répond à notre besoin. On a une boucle de rattrapage, on peut contrôler ce qui est fait, ce qui va être fait. On accède à des données virtuelles qui sont intéressantes. Et puis bah, là, deuxième tournée, on découvre qu'on peut faire des vérifications entre des objets réels et virtuels, côté, ce qui ouvre un champ des possibles assez intéressant. Voilà. Donc dire qu'on connaît toutes les fonctionnalités, non. Qu'il y a un énorme potentiel, oui. Et c'est surtout que le potentiel, il est atteignable demain.
On est très pressé de pouvoir l'utiliser, de pouvoir recevoir le matériel et de pouvoir après partir en tournée avec.
Dès que moi j'aurai la possibilité de pouvoir l'utiliser sur les chantiers avec les entreprises, on perdra pas de temps pour l'utiliser en tout cas, on est demandeur.
Pour moi c'est tout bénéfice cette application, on gagne de temps et on gagne de qualité, ça sera génial.
Pierre-Yves, merci beaucoup d'avoir partagé cette vidéo, parce qu'on dit souvent que la technologie, au fond, elle est au service de la déshumanisation des services, et là, on voit que c'est exact inverse qui se passe, puisqu'au contraire, c'est un outil de management qui permet de rapprocher des gens qui ne se parlent pas nécessairement, qui ont des vues convergentes, enfin des vues divergentes qui, là, se retrouvent convergentes et complémentaires. Donc, on voit qu'au-delà d'une petite prouesse technologique, ça permet effectivement de créer une nouvelle culture technique. Alors, est-ce que cet outil va se généraliser? Vous avez deux questions qui vous sont adressées directement là-dessus, qui se complètent, donc je vous lis les deux d'un coup. On vous demande d'abord, dans un premier temps, comment est-ce qu'est envisagée la mise en œuvre du BIM et du jumeau numérique? Est-ce que c'est en fonction de la segmentation du réseau, des projets de régénération ou des projets de développement? Il y a quelqu'un qui va un petit peu plus loin et qui vous demande si le BIM va devenir obligatoire dans les processus d'études, et si oui, à quelle date?
Alors, le BIM est déjà une pratique d'entreprise et on l'a déjà, on va dire, développé de manière générale sur les projets de portée géographique limitée parce qu'on voulait utiliser des outils qui soient sûrs. Et on va très bientôt le généraliser complètement à l'ensemble des projets de conception-construction. Donc, en fait, le BIM, c'est une pratique d'entreprise qu'on met en œuvre sur l'ensemble des projets. Et on est en train de regarder avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre leur portefeuille de projets pour faire passer progressivement l'ensemble de ces projets en BIM. Alors, après, pour la partie mise en œuvre du jumeau numérique, on va se focaliser sur les zones avec des enjeux de maintenance qui sont les plus importants pour pouvoir, dans une logique d'asset management, je pense, bien pensée, pouvoir investir là où c'est effectivement le plus rentable de retrouver les bénéfices du BIM et de la maintenance prédictive qui sera permise par le jumeau numérique.
Vous dites très bientôt et que ce soir, on est sur différentes échelles de temps, c'est 2020. 2022, 2025, 2030
2020-2021, on a mis en place, on met en place sur les projets, on va dire un petit peu concentrés. On va généraliser à partir de 2022 sur l'ensemble des projets en intégrant les projets de construction. Et pour ça, on travaille avec les entreprises de construction. Et puis dans les années 2024-2025, ça sera. Pour l'instant, on a déjà des prototypes de fonctionnalités qu'on déploie auprès des infrapôles. D'aide à l'utilisation du BIM pour l'aide à la maintenance et l'aide à l'élaboration des tournées. Et l'ensemble, et on est en train d'enrichir le nombre de cas d'usage du jumeau numérique pour arriver dans les années 2024-2025 à une généralisation de fonctionnalités un peu plus développées du jumeau numérique qui donnera sa pleine puissance.
Et si vous voulez bien encore une petite question finance, est-ce que vous avez une étude comparative entre les coûts de développement du BIM et les gains estimés, sachant que dans votre présentation, vous avez montré que d'abord les coûts de développement du BIM s'étaient considérablement réduits en très peu de temps.
Alors, on est en train de se construire un retour d'expérience. Et ce retour d'expérience, en fait, on s'aperçoit qu'on l'a vraiment. Et on est en train de travailler avec Alban, justement, sur le secteur de Mantes, pour bénéficier de son retour d'expérience, parce que là, il a réellement mis en place, il sait ce que lui a coûté la mise en place du BIM sur son périmètre, et il voit les bénéfices en termes de travaux évités. Et là, on voit déjà que sur 6 mois, il y a déjà plusieurs millions d'euros qui ont été économisés sur des 6 mois de mise en place du BIM en termes de collaboration pour les travaux. Donc, on va développer notre évaluation sur un éventail de projets plus large, et puis on aura une idée de la rentabilité effective du BIM, mais on voit déjà que le potentiel est quand même extrêmement significatif.
Eh bien, c'est plutôt une excellente nouvelle pour tout le monde. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que j'ai d'autres questions qui ne manqueront pas d'arriver, mais je voudrais clôturer ce premier tour de table avec vous, Pierre-Emmanuel Fayemi. Vous êtes extérieur à la SNCF, vous êtes notre invité, avec grand plaisir. Vous êtes responsable recherche et innovation pour le cabinet ICO. Vous êtes un spécialiste question de résilience du réseau. Donc vous avez une approche globale au sens, vous regardez un petit peu partout comment tous les pays se posent cette question de l'adaptation de leur réseau au dérèglement climatique. Hier, il y avait une tribune de 1400 chercheurs qui interpellaient les candidats à la présidentielle en leur disant « look up » et regardez un peu ce qui se passe parce qu'on n'en parle pas assez. Vous, heureusement, vous y passez beaucoup de temps. Vous regardez quelle va être l'évolution du réseau. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler quels sont les principaux aléas auxquels le réseau risque d'être mis à rude épreuve, enfin risque de devoir faire face? Et deuxièmement, est-ce que ça veut dire qu'il faut imaginer une régénération complète? Tout à l'heure, Michel, en introduction, disait au fond, on ne change pas tout du jour au lendemain. Est-ce que si on est dans un scénario à plus 2, plus 3 degrés, il faut changer l'intégralité du réseau?
Oui, alors c'est un sujet à la fois vaste et complexe. Peut-être avant de détailler un peu plus et de répondre aux questions, je pense que c'est aussi important que je précise d'où je me tiens quand je parle, parce qu'il y a énormément d'approches assez différentes et d'angles précis sur ce genre de thématiques-là. Alors, à défaut de préciser qui je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais au moins préciser ce que je fais. Donc, je travaille en effet pour un cabinet de conseil qui est spécialisé dans le ferroviaire et l'énergie. Et au sein de ce cabinet, je suis rattaché à une entité qui s'appelle l'ICOSLAB, qui est un laboratoire de recherche et d'innovation. C'est vrai que généralement, quand on parle d'innovation dans le ferroviaire, on a toujours cette image un peu très conservatrice. Et c'est vrai que finalement, il y a un de ces petits nombres de projets qui sont de grosse ampleur, donc ça ne pousse pas forcément à faire l'innovation de rupture. Nous, dans cet écosystème-là, on a, je dirais, oui, la chance de ne pas avoir cette casquette d'industriel. Alors, je me dis, j'espère que mon patron ne regarde pas ça. C'est vrai que du coup, on a un espèce de droit à l'échec. Puisque si on se plante sur un projet d'innovation, on va se faire taper sur les doigts, bien entendu, hein, c'est pareil partout. Mais il n'y a pas péril dans la demeure. Donc on a une capacité à essayer, non pas, je ne dis pas qu'on fait que de l'innovation de rupture, loin de là, mais on essaie toujours d'aller le cran d'après. Donc on oscille avec entre une grosse dizaine et une petite quinzaine de projets de recherche et d'innovation qui sont sur des thématiques très différentes. On va travailler... On développe Hyperloop avec un partenariat avec Transpod sur le convertisseur de puissance qui alimente la chaîne de traction. On travaille aussi sur tout ce qui va être lié aux plateformes de data science pour faire de la maintenance prédictive. On a un gros historique là-dessus et on développe un outil qui se veut modulaire et hybride, qui combine système expert, stream learning, hypercontextualisation de la donnée. On va travailler aussi sur la cybersécurité, la résilience des systèmes informatiques dans le ferroviaire ou encore en physique de la matière condensée sur le contact pantographe caténaire, comprendre un peu les effets Branly. Finalement, ce n'est pas tant les projets qui, je pense, sont ici dans la thématique de la conférence intéressante, c'est plutôt sur le pourquoi et le comment on génère et on traite ces problèmes. On va le faire avec deux angles. D'abord, en amont, on va travailler sur tout ce qui va toucher à la prospective technologique, donc poser un peu le cadre, essayer de comprendre le terrain dans lequel ces projets s'initient et ce qu'ils peuvent potentiellement apporter à la thématique. Et puis après, au quotidien, on fait aussi pas mal de résolution de problèmes. Comme on a cette espèce un peu de liberté de mouvement, on est aussi assez rapidement amené à travailler sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Moi, au quotidien, du coup, ce que je fais, c'est du développement méthodologique, on fait de la méthodologie de l'innovation. Et donc, on a été aussi, en effet, amené à travailler sur des questions liées au changement climatique et au développement durable. Alors, pour parler du changement climatique, alors j'ai peut-être commencé par enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est vrai que quand on pense ferroviaire, ben on est face à un système qui a été pensé, conçu et développé pour être fiable et robuste. C'est-à-dire qu'on l'a pensé pour qu'il puisse opérer dans une gamme de conditions opérationnelles qui est extrêmement large. La limite de ce type de système, et ce n'est pas le seul, c'est que dès qu'on va commencer à réussir à le stresser, à le mettre dans des conditions opérationnelles auxquelles il n'a pas été habitué ou pensé pour, on a une capacité d'adaptation qui va être, somme toute, assez limitée. Le fait de le faire évoluer un peu au bon vouloir ou à la volée, c'est assez compliqué. Et pour répondre à ça, on va devoir travailler sur des temporalités qui sont assez différentes, à la fois sur du court terme, pour faire face à des problématiques plutôt du type ponctuel. Ce qu'on peut faire, qu'on va faire de l'analyse critique du système, quels sont les éléments, les nœuds du système qu'il faut absolument préserver. Et puis, on peut aussi travailler sur ce qui est les problématiques de prévention, développer les partenaires, récupérer les données météorologiques pour anticiper les aléas météorologiques, ou en tout cas avoir une réactivité accrue. Et la SNCF le fait d'ailleurs plutôt bien, on a des consultants qui travaillent là-dessus au sein de l'effectif. Et puis il y a aussi tout un travail sur des temporalités plus longues. C'est vrai que dès qu'on parle de changement climatique, ben on va avoir assez rapidement une tendance à projeter. Et généralement, pour faire face et réussir à définir un peu le cadre, on va faire appel à des démarches de prospective dites technologiques. Alors souvent, quand je dis ça, on voit quelqu'un qui arrive avec une approche un peu fumeuse et une grande boule de cristal. C'est pas ça, ou c'est pas que ça en tout cas. C'est une démarche qui se veut analytique. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre quelles sont les tendances à la fois à court terme. On peut faire des constats sur la généralisation de l'usage des smartphones. Donc on peut penser utiliser, passer par du NFC pour faire de la biétique par exemple. Et puis il y a un travail, je dirais même un peu plus poussé, sur des temporalités longues. On va surtout se concentrer sur les constantes. Alors il y en a plein, on peut parler des cycles Kondratiev, la constante de Marchetti, qui est intéressante parce qu'elle fait la corrélation entre la taille d'un centre-ville et puis la vitesse qu'un usager a à se déplacer dans ce milieu-là. Donc avec toutes ces constantes, on arrive à définir on s'efforce de définir des scénarios. Et là, c'est finalement là où ça devient, on va dire, le plus intéressant. C'est que derrière ces scénarios qui peuvent être très, très divers, on va essayer de comprendre et de définir d'un point de vue projet d'innovation, développement de technologie, comment on s'insère dedans. Là, il y a deux approches. C'est soit on va développer un projet, une technologie qui va être polyvalente, qui va essayer de s'adapter à différents scénarios dans le but de maximiser sa pertinence. C'est-à-dire finalement, indépendamment où on limite les risques, il y a un scénario dans lequel elle ne colle pas et qu'elle soit antinomique. Et puis, il y a aussi l'autre pendant qui est de dire dans ces scénarios, il y en a un qui me semble plus souhaitable que les autres. Et du coup, je mouille, je prends parti et je vais développer une technologie qui va permettre l'émergence, l'essor de ce scénario type que je souhaite développer. Si on prend un exemple très concret, des scénarios un peu longue durée, on a notamment si on reprend la constante de Marchetti, on voit qu'on a des scénarios qui vont être sur quelques mégalopoles qui quadrillent un territoire avec des systèmes d'hyperconnexion entre elles, et puis à l'opposé, une architecture qui est basée sur des villes de taille intermédiaire, 100 000, 200 000 personnes. Évidemment, on comprend bien que l'architecture du réseau de transport qu'il y a derrière est complètement différente. Si on part sur les mégalopoles, on peut en effet imaginer qu'un système type Hyperloop peut avoir du sens dans ce scénario-là et potentiellement moins dans le deuxième. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Donc finalement, j'ai dit que la prospective, c'était un travail qui était essentiellement analytique. Je me contredis du coup, parce que pas que, il y a aussi évidemment pas mal de créativité. Le carburant de la créativité, c'est avant tout la contrainte. C'est éviter le fameux syndrome de la page blanche. J'allais dire par chance, pas vraiment, mais dans le cadre du changement climatique, on a un ensemble de contraintes qui est extrêmement complexe. Détricoter tout ça et comprendre ce qui est plutôt lié à de la causalité ou à de la corrélation, c'est encore assez complexe. Ça évolue vite et beaucoup aussi. Néanmoins, c'est aussi ce qui va le terrain de jeu qui va alimenter les réflexions et permettre de développer des innovations. Quand on parle innovation dans le cadre du changement climatique avec le ferroviaire, il y a un peu, je dirais, deux angles d'attaque un peu différents. C'est-à-dire qu'on l'a déjà rappelé, c'est vrai qu'on a un système qui est de transport qui est plutôt vertueux. C'est vrai que si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, on est, alors ça dépend des méthodes de calcul, mais on va être sous la barre du 1% à l'échelle française. Donc c'est bien. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire mieux, bien sûr. Il y a beaucoup d'axes d'amélioration. On a eu la chance de travailler avec la SNCF sur une étude sur comment, à partir de grandes stratégies, développer des initiatives qui permettent, à l'horizon 2050, de réduire les émissions de CO2 de 75%. Et donc, on peut aller plus loin. Il y a plein de choses qui sont possibles. On peut imaginer récupérer l'énergie de freinage sur les TGV. On sait que c'est complexe parce que ça a un frein de TGV, ça a une masse unitaire de l'ordre de 80 kg. Lors du freinage qui va durer 90 secondes, on va passer d'une température ambiante à 400 degrés. Donc on a des crêtes qui sont très élevées, mais on sait qu'on peut potentiellement récupérer jusqu'à 300 kW. C'est encore plus compliqué quand on est dans une démarche urbaine, parce qu'on va avoir une cyclicité qui va poser d'autres problématiques. On a aussi, par rapport au changement climatique, pour revenir dessus, un des risques auxquels on fait le plus face en France, ça va être la partie un peu inondation. Alors, j'allais dire pareil, j'ai la chance, c'est pas vraiment une chance, c'est qu'à chaque fois que je viens faire une intervention, le jour même, la veille ou l'avant-veille, il y a des publications dans la presse qui corroborent un peu le propos. Là, je pense à l'étude de la NASA sur la fonte du Groenland qui finalement s'avère potentiellement plus rapide et plus impactante. On parle d'une élévation de niveau de la mer de l'ordre de 7 mètres. Si en France, on est épargné, on se rend bien compte que tout ce qui va être littoral, notamment chinois et notamment aussi au niveau de l'Italie, où ils ont un réseau ferroviaire qui est un peu étriqué entre les montagnes et la côte, il va y avoir des problématiques assez importantes sur comment est-ce qu'on peut adapter ça par rapport à ces conditions-là. En France, on est plus sur des problématiques de crues et de sécheresse, sur comment est-ce que cela impacte le réseau. Alors sur les phases d'innovation, ça alimente des réflexions aussi. On voit bien que de penser des dispositifs qui permettent de rendre étanches les systèmes de signalisation sur les voies, ça peut permettre à terme de créer une réactivité dans la remise en service de la voie. Donc il y a des choses à faire. On a aussi commencé à travailler sur tout ce qui était feu de forêt, notamment déclenché par le passage de certains rangs. Ce n'est pas vraiment le cas en France, dans d'autres pays c'est une vraie problématique aussi, où là on peut réfléchir en effet, se dire est-ce qu'il faut modifier l'emprise ou est-ce qu'on va travailler sur des systèmes de détection de feu pour faire de l'early warning. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faisables pour améliorer. Et puis, on l'a déjà un peu évoqué, peut-être l'enjeu principal ici, c'est aussi de se dire, puisqu'on a un système qui est vertueux, on peut aussi travailler à réduire les barrières d'entrée pour que la part du ferroviaire soit plus importante dans le mix du transport. Et là, il y a encore beaucoup, beaucoup de sujets très porteurs. On a parlé notamment de la partie data avec la maintenance prédictive. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est encore, à ma connaissance, très ciblée sur le matériel roulant, mais de l'étendre à l'ensemble des sous-systèmes du ferroviaire, c'est quelque chose qui est assez porteur. Alors derrière, il y a aussi des problématiques qui touchent plus largement que le ferroviaire. Je pense à l'intelligence artificielle, où finalement, quand on regarde aujourd'hui qui investit massivement sur la thématique, on va retrouver des moteurs de recherche, des plateformes de contenu et puis des sites de rencontres. Si l'algorithme il se plante, vous allez passer un mauvais moment, mais entre guillemets, c'est pas trop grave. Quand on est dans un domaine industriel, on n'a pas vraiment ce droit à l'erreur-là. Donc, on ne peut pas simplement regarder le résultat et s'y fier. Il faut aussi comprendre la logique qu'il y a, le process, comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Et donc, ça ouvre un champ de recherche sur l'explainable, alors les intelligences artificielles que l'on peut expliquer. Qui est de rien, qui me semble passionnant. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, on l'a aussi évoqué, le fret qui est un enjeu. C'est vrai qu'on est aux alentours des 9% avec l'objectif de passer à 18% d'ici dans moins de 10 ans. Ça pose beaucoup de questions et d'enjeux d'organisation, de réseau et même technologique. On le voit, si on parle du train de fret autonome. On parle de trains qui feraient jusqu'à 1400 mètres de long à un certain horizon. Un freinage d'urgence de ce type de train, c'est 2 km. Donc il faut être capable de comprendre ce qui se passe 2 km en amont pour déclencher le freinage. Donc il y a aussi des problématiques techniques qui sont assez importantes. Donc voilà, en conclusion, finalement, tout ce que je voulais dire, c'est que quand on pense changement climatique, c'est assez difficile de le traiter purement par l'angle technologique. Il faut forcément penser social, sociétal, environnemental. Donc ça pousse à penser de manière très systémique et c'est pas quelque chose qui est forcément très, très facile ou accessible. Et dans ce type de démarche-là, le fait de s'appuyer sur des outils issus des sciences de la conception comme la prospective technologique peuvent aider un peu à alimenter les réflexions là-dessus.
Merci beaucoup, c'est très, très riche. Je note l'analogie avec les sites de rencontre et ce que serait un mauvais match appliqué à la SNCF. Dans le cadre de la prospective, on se demande souvent s'il faut aller vers de la sobriété ou au contraire un surcroît technologique avec ce qu'on appelle le technosolutionnisme, à savoir que la technologie va nous sauver. Au début de votre intervention, vous mentionniez les innovations de rupture. De ce que j'ai cru comprendre, quand même, face aux aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus puissants, que ce soit dans le cas des crues, des inondations ou dans le cas des feux de forêt, ce que Joe Alsace appelle les méga-feux qui se répandent. Il y en a maintenant qui font la taille d'un pays comme le Portugal, quand même, donc on imagine à quel point ça peut bloquer les voies. Il ne faut pas imaginer un salut par la technologie avec des trains amphibies ou inifugés, c'est pas ça l'idée.
C'est difficile. Pour répondre, je suis obligé de faire un peu le parallèle avec comment est-ce que l'innovation a évolué au cours des dernières années, si on prend les 40 dernières années. Moi, pour ça, j'aime bien remonter un peu dans le temps. Et pas tout analyser non plus, mais en termes de prise, moi, j'aime bien utiliser l'approche de Brundtland ou de Passet, qui normalement utilisait, c'est un modèle qui est utilisé pour parler d'éco-conception. Donc là, je le tords quand même pas mal. Alors, je vous prie de me faire confiance et de m'accompagner dans la démarche. On a un prisme économique, social et environnemental. Le prisme économique, on voit bien qu'il y a une accélération de l'innovation, au sens où on a une compétition qui s'est mondialisée. C'est vrai qu'on a eu, dans les années 90, cette idée de transposer les activités de production dans les économies émergentes, la Chine et l'Inde, pour ne pas les citer, en gardant un peu tout ce qui est des activités à haute valeur ajoutée du côté de l'Occident. Aujourd'hui, la plupart des laboratoires indiens ou chinois font aussi bien qu'un laboratoire de recherche européen ou américain. Donc on a une compétition qui s'est mondialisée avec une pression croissante parce que aujourd'hui on le sait que, alors de manière très globale, près de 80% des entreprises font leur chiffre d'affaires avec des produits qui ont moins de 3 ans. Ça s'applique moins aux ferroviaires, mais néanmoins il y a une espèce de course aussi en avant. Sur le prisme social, on voit que ça a quand même beaucoup évolué, mais c'est normal, les sociétés évoluent. Un employé aujourd'hui il est mobile. Il y a peu de gens qui vont... Alors moi, je m'amuse beaucoup quand je donne des cours en école d'ingénieur où je demande à main levée qui a prévu, après son diplôme, de rentrer dans une société, de faire toute sa carrière au sein de cette entreprise. j'ai un élève, deux élèves, peut-être, ou les deux promos qui lèvent la main. Donc, c'est évidemment plus la norme. Donc, forcément, le savoir, il est aussi mobile. Alors, c'est aussi une chance parce que ça a permis de structurer. On parle d'Innovation Lab, de Fab Lab, de laboratoire de recherche et innovation. Il y a plein d'entités très différentes, mais qui ont pour vocation de structurer la démarche de l'innovation. Et puis, le prisme environnemental, on le sait, il y a eu un changement de paradigme dans le milieu des années 90, où finalement, on s'est rendu compte qu'on vivait sur une planète qui était finie et que ça a changé complètement la manière qu'on avait de concevoir nos systèmes. Donc, on devait aussi être beaucoup plus soutenable dans notre approche de la conception. Donc, si je fais le bilan, on doit faire plus parce qu'on va toucher à tout avec l'innovation, plus vite, mais avec moins de ressources. Donc, ça devient un casse-tête, ça devient compliqué. Alors, c'est aussi pour ça, de mon point de vue, c'est très subjectif, mais qu'il y a toute une emphase qui est faite sur les méthodologies d'innovation et pour qu'il y en ait un trait, parce qu'il faut structurer de la manière la plus robuste possible ce type de démarche-là, parce qu'il y a de plus en plus de risques. Maintenant, de penser que c'est au travers de la démarche d'innovation qu'on va résoudre tous les problèmes auxquels on fait face, je dirais que c'est encore une fois une approche qui est très anthropocentrée. Donc, on résoudra probablement des problèmes au travers de cette approche-là, mais aussi il y aura dans ce changement de paradigme, il y aura aussi une approche qui sera, à mon sens, différente dans la compréhension même des problèmes.
Merci beaucoup pour ce rappel élémentaire, un peu d'humilité. Pierre-Étienne, j'ai beaucoup de questions pour vous sur le BIM, mais d'abord, Michel, je sais que vous avez un petit peu discuté avec Pierre-Emmanuel avant la conférence. Ces enjeux de dérèglement climatique au groupe, vous les regardez comment? Parce que c'est vrai que si le Groenland fond malheureusement plus vite que prévu et que ça monte de 7 mètres, il y a quand même certaines régions françaises qui seront exposées. Il n'y a pas que les crues, c'est des choses que vous regardez.
D'abord, j'adhère totalement à ce qu'il a dit. C'est-à-dire que ça part d'abord sur un certain nombre de recherches, de comprendre les phénomènes et de bien se positionner. La démarche, elle est très pragmatique. On a d'abord regardé un axe, c'est-à-dire on a regardé le Paris-Le Havre, et on est en train de regarder d'autres axes, et on fait l'analyse complète de sensibilité par rapport à différentes hypothèses d'élèvement climatique. Je pense que la réponse, elle est plurielle, et tu l'as dit. Le premier point, c'est on voit qu'il y a une élévation de température, et à partir de là, il faut qu'on adapte nos actifs à cela. Et donc, ça adapte des règles de maintenance, d'exploitation. Et c'est une évolution continue pour être en capacité, quelque part, sur une tendance de fond, d'adapter. Puis après, il y a des phénomènes exceptionnels de type inondation, etc. Et là, on est plutôt dans des phénomènes de prédiction, d'accepter qu'on ne pourra rien faire contre la nature. Enfin, si on a 3 mètres d'eau au-dessus de nos voies, on ne continuera pas à faire rouler nos trains. Et on voit qu'il y a des phénomènes exceptionnels. Et tu l'as très bien décrit. Là, on est dans du prédictif. Et comment on rétablit au plus vite le réseau? Et puis, il y a des tendances de fond où il faut qu'on soit lucide. On sait que, par exemple, moi, ce qui me frappe, tu l'as cité, il y a, par exemple, certains... S'il y a un élèvement, par exemple, du niveau de la mer ou d'un certain nombre de points, on sait très bien qu'il y aura un élèvement important de la nappe phréatique, etc., et que des grands réseaux enterrés poseront des questions. Et donc, les grandes métropoles, elles risqueront aussi d'être touchées par le ferroviaire, mais essentiellement par leur ligne de métro ou tout leur système. Ce n'est pas tellement l'inondation, c'est que déjà, la ville mourra par son sous-sol. Et donc, là-dessus, il faut qu'on soit lucide. Nous, derrière, il y a une politique générale sur laquelle il faut travailler et on s'adapte vraiment très loin. Et dernier point, on est un très grand contributeur, par contre, tu l'as décrit, notre réseau est robuste. Notamment, on vient d'adapter notre infrastructure pour servir de barrage, quelque part, à un système de digues dans le sud de la France, parce qu'on sert aussi, parce qu'on a un réseau robuste, à protéger les autres. Et on a aussi ce devoir, en tant qu'entreprise de service public, à rendre aussi ce service au niveau de la société.
Alors, Pierre-Étienne, j'ai trois questions pour vous dans une logique de transparence totale. Je vous assure que je vais les lire parce qu'il y en a certaines que je ne comprends pas, mais je suis persuadé que vous, comme vous êtes bilingue BIM, il ne va pas y avoir de soucis pour vous. La première, c'est aujourd'hui, nous n'avons pas la connaissance des réseaux souterrains existants, faute de budget, mais une obligation depuis 2019 de les recenser avec une précision à plus ou moins 40 cm pour répondre à la loi DT-DICT. Est-ce que vous arriverez à intégrer ça dans le BIM? Première question. Deuxième question, le format ouvert IFC sera-t-il le format BIM privilégié par la SNCF Réseau? Et une dernière question, peut-être déjà prenez ces deux-là, puis j'en ai une troisième pour vous.
Voilà, alors pour l'intégration des réseaux, en fait on s'aperçoit que Quand on travaille sur des études amont, on va regarder à la fois des données qui sont issues de nos bases de données internes, mais aussi des données publiques. Et dans ces données publiques, il y a des réseaux. Et donc, on commence à intégrer effectivement dès l'amont les réseaux souterrains dans les maquettes BIM qu'on va établir. Mais je pense qu'il faudra qu'on travaille un peu plus ce point-là avec ceux qui sont vraiment en charge de ça. Alors, sur le deuxième sujet, sur la deuxième question sur le format IFC, oui, bien sûr, on a fait ça pour ça, je vais dire. On a choisi de ce, comme un certain nombre de réseaux, les Suisses, les Italiens et les Chinois, de privilégier le format IFC pour que ça devienne le standard d'échange entreprise. Le standard d'échange avec nos partenaires qui sont les autres entreprises, ce qui permet au passage de ne pas être captif des éditeurs de logiciels, ce qui est un risque que court un ensemble d'entreprises ferroviaires et de gestionnaires d'infra dont on cherche tous à se prémunir collectivement. Voilà.
Question avec énormément de sigles. Aujourd'hui, les métiers de l'exploitation, de la maintenance et de production horaire se sont dotés d'outils digitaux propriétaires, Mistral, NG, Spot, SIPH, sans forcément d'interfaçage avec le BIM. Quel lien existera-t-il entre le BIM et ces outils dans le futur? Et quel est le retour sur investissement estimé?
Alors, on est en train de travailler, en fait, dans le cadre d'un projet européen que je pilote avec, qui s'appelle Links for Rail, à ce qu'on appelle l'architecture globale du système ferroviaire. Donc, pour faire très court, découper le système ferroviaire en sous-systèmes ou en boîtes dont on va définir les différentes fonctionnalités et définir les liaisons entre ces sous-systèmes. Par exemple, comment on va faire parler un système de gestion du trafic avec un système de signalisation. Et à cette occasion-là, et comment on va faire se parler aussi l'exploitation avec la gestion de l'énergie et éventuellement la maintenance, les remontées d'informations sur la maintenance. Et donc, on a été amené à définir, et ça c'est l'UIC qui travaille, un langage, un format d'échange, un langage d'échange qu'on appelle le Conceptual Data Model, qui va permettre de faire le lien entre ces boîtes de manière complètement partagée entre l'ensemble des acteurs européens, que ce soit les gestionnaires d'infra, que ce soit les constructeurs d'équipements ferroviaires, que ce sont les constructeurs de systèmes de signalisation, Alstom, Siemens, Hitachi, etc. Et de manière à ce que tout le monde parle le même langage pour les formats d'échange et qu'à terme, quand on va remplacer un système de gestion du trafic par un autre, on sera pas amené forcément à redéfinir un connecteur qui coûte très cher et qui demande des efforts de développement qui sont longs et coûteux. On aura des formats d'échange qui permettront, alors je ne vais pas dire de faire tout de suite de brancher les prises, mais de gagner beaucoup de temps dans le développement. Et alors ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que un des cas d'usage, le premier cas d'usage qu'on a défini pour justement ce modèle conceptuel de données, où on va fédérer la description du BIM en EFC justement avec les formats d'échange pour décrire les données relatives à l'exploitation, ça va être des couplages de systèmes d'exploitation comme OSRD avec des systèmes de signalisation comme ceux qu'on est en train de développer à la SNCF. Donc, je ne vais pas dire que la boucle est bouclée, mais c'est un sujet sur lequel on travaille effectivement dans le cadre européen.
Je n'avais pas compris la question, mais j'ai compris la réponse. Donc, merci beaucoup. C'est la preuve que c'était limpide. Et puisque vous parliez de l'Europe, ça me permet de remonter au début du fil des questions. Je vous la donne à vous, Estelle, si vous voulez bien. Il semblerait que nos voisins, c'est Philippe Rouxel qui vous demandait une petite heure, mais à coup de pas, il semblerait que nos voisins européens, notamment l'Allemagne et l'Italie, avancent très, très vite sur leur CCR. Pourquoi est-ce si long pour atteindre la cible sur le CCR, sur le RFN? Donc, j'imagine que c'est le réseau ferroviaire national, c'est ça?
National. Alors du coup, on aimerait tous que ce soit plus rapide, évidemment. Il y a du coup, comme toujours, une question de choix à opérer, hein, et donc de priorisation de nos investissements, puisqu'on est face, Michel l'avait évoqué en premier, un mur de régénération au global sur le réseau. Il y a ensuite une question de soutenabilité de la charge quand on la regarde sous tous ces aspects, parce que le déploiement des CCR, c'est une charge importante d'abord en termes d'études, puis en termes de travaux et enfin en développement. Donc il y a bien tous ces aspects à prendre en compte. Et puis, je n'ai pas parlé d'euros, mais il y a évidemment un volet économique important hein, de définition de la trajectoire. Je ne sais pas si tu veux compléter du coup, Michel.
Non, juste un petit mot parce qu'on se compare toujours aux Européens. Là, on se projette sur l'avenir et c'est vrai qu'on augmente les volumes. Quand on passe à 400 millions à 600 millions d'euros par an sur la signalisation, donc c'est une évolution importante. Hélas, on souffre, hein, il faut le dire, d'un sous-investissement sur le réseau français antérieur. Nos voisins ont des postes informatiques qui existent déjà et qu'ils ont déjà modernisés depuis plusieurs années. Et c'est beaucoup plus facile de basculer d'un système de commande centralisée quand on a déjà des postes informatiques que nous qui avons un réseau où on a encore des postes mécaniques ou des postes électromécaniques qui datent d'un certain nombre d'années. Estelle a cité les chiffres, hein, 1500 postes d'aiguillage sur le réseau structurant, 700 sur le réseau régional et dessus une minorité de l'ordre de 15 à 20% de postes informatiques. Donc on voit un peu l'ampleur des investissements qui sont faits. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, et ça c'est nouveau, au-delà des spécialistes et de la SNCF, de l'intérêt de cette modernisation d'exploitation et du retard pris en France.
Alors il est 19h30, heure à laquelle cette conférence avait prévu de se terminer. Je vous propose de rester encore 5 minutes pour un léger débord pour la bonne cause, parce que vous avez été très curieux. Mais donc j'attire votre attention sur des réponses rapides. Il y en a deux qui sont ouvertes pour tous les deux. Question très ouverte, quelles sont les grandes évolutions technologiques attendues dans les gares? Est-ce qu'on va avoir des capteurs partout qui nous préviendront en temps réel de la voie si jamais il y a un petit changement? Et question corollaire, mais beaucoup d'évolutions techniques, mais est-ce que la révolution évolue aussi vite, la réglementation, pardon, est-ce que ça évolue aussi vite et est-ce que ça se simplifie? Car il semblerait que ça a peu évolué, vous demande un questionneur anonyme.
Alors moi, si je rêvais sur la gare du futur, c'est d'abord une gare qui est ouverte à l'extérieur. Donc la première grande révolution, mais vous l'avez venir à grands pas, c'est la révolution de la billettique, c'est la révolution de l'information, c'est le fait, comme en Ile-de-France, qu'on passe complètement d'un réseau urbain au train et à la souplesse. Alors c'est pas forcément l'équipement en gare, mais on le voit déjà dans le nouvel outil que SNCF met en place, sur l'information qui est de plus en plus ouverte. Enfin, les gens, ils souhaitent savoir est-ce que je peux prendre une trottinette ou un train. Donc c'est plutôt cette modalité-là, et c'est une gare qui est de plus en plus ouverte. Et ça, on a parlé du RER métropolitain, ça ne peut fonctionner que si, clairement, c'est complètement banal de prendre son bus, le RER, etc. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un train. Et donc, la grande révolution de la gare, c'est d'abord celle-ci. C'est celle de l'information voyageur. Et ça, je pense que vous avez dû voir que maintenant, voilà, ce n'est plus l'information dans la gare qui est intéressante, mais c'est celle que j'ai sur mon smartphone. Donc, la gare devient de plus en plus un lieu de passage. Et puis, le dernier point, et ça, je sais qu'il y a un très gros travail qui est fait dans les équipes de Gare et Connexion, c'est une gare aussi de développement durable. Et vous avez dû voir qu'il y a un très gros travail qui est fait sur le sujet, aussi bien dans l'éco-conception que dans son mode de fonctionnement. Et là-dessus, je pense que la SNCF est très moteur sur le sujet.
Et alors, en quelques mots, la question sur la réglementation. Du coup, elle est double, la question. La réglementation évolue-t-elle et se simplifie-t-elle? Du coup, c'est bien deux aspects différents. Elle a beaucoup évolué, la réglementation, sous différents aspects, beaucoup sous l'impulsion de l'Europe notamment. On a parlé d'interopérabilité, hein, donc ça tire tout un volet important. Donc une charge d'adaptation. Et du coup, face à ça, est-ce qu'on arrive à simplifier? Sûrement pas assez, hein, du point de vue des utilisateurs, il y a toujours mieux à faire. Il faut qu'on arrive à trouver le bon compromis entre les évolutions nécessaires et du coup une simplification et une orientation opérationnelle sûrement plus forte.
J'ai une dernière question technologique et je finirai avec vous parce que j'ai plusieurs questions climatiques, profondes, métaphysiques pour le dîner de ce soir. Comment se positionne la SNCF par rapport au déploiement de la 5G et est-ce qu'elle entend utiliser son infrastructure à but commercial?
Alors, on a deux positionnements par rapport à la 5G qui est complètement différent. Alors, le nouveau système RFMCS qui sera le système européen est basé sur une technologie 5G. Donc nous, on va passer directement de la 2G à la 5G, puisque notre système radio actuellement GSMR est sur une technologie 2G. Donc ça, c'est la capacité quelque part de travailler sur les données. Ça, c'est pour notre usage interne. Et puis on a un gros travail avec les opérateurs, par contre, pour équiper le réseau et que l'opérateur, enfin, quelque part, le voyageur puisse avoir l'usage de la 5G le long des voies. Et on voit qu'on peut être assez moteur dans des partenariats avec l'extérieur, parce que le déploiement qu'on va faire de nos propres systèmes pour notre usage va nous permettre d'offrir aussi un service aux clients.
Donc, je termine avec vous. Il y avait une question sur l'interaction avec les zones urbaines fortement imperméabilisées, mais Michel en a pas mal parlé sur le fait qu'on a du dialogue avec les élus et les promoteurs immobiliers. J'y reviens pas. En revanche, question fondamentale d'un point de vue ressources, acier, cuivre, ballast, le système ferroviaire a-t-il le potentiel pour devenir 100% recyclable grâce à la R&D? Si la réponse est non, quel est le pourcentage théorique atteignable? Il y avait une chronique du Monde hier qui disait que l'Europe voulait être leader mondial sur la voiture électrique, mais que 98% des composants étaient emportés. Et voilà, est-ce qu'on est dans le même dilemme?
Je peux juste donner 2-3 chiffres?
Bien sûr.
On vient de baisser notre bilan carbone de 40% sur les rails. Notre premier poste d'énergie à l'infrastructure, c'est les rails, parce que c'est forcément une partie sidérurgie. En 3 ou 4 ans, on a baissé de 40% en réutilisant, alors vous avez dû entendre dans la presse, une nouvelle technologie qui est liée à Ascoval, et le fait qu'on recycle une partie de nos rails. Donc c'est massif. Le deuxième poste, nous, en termes d'utilisation de CO2, c'est le ballast. On est en train de recycler plus de 60 à 70% du ballast et de leur utilisation. On a un travail sur 10 ans qui est à peu près une réduction de la moitié de notre trajectoire en CO2. Et on est parti sur les grands postes. On est très pragmatique. On veut avoir un vrai impact écologique direct. Et donc, on a pris nos grands postes derrière, qui impactent le ferroviaire. Et ça donne 2-3 chiffres sur des vraies politiques qui se feront à court terme.
Donc, on voit ce qui est fait. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin?
Oui, bah alors c'est encore une fois, c'est une réponse un peu avec deux mouvements latéraux. C'est d'un côté, on peut évidemment mieux recycler. Ça permet aussi d'aborder la thématique de filière, parce que ben, finalement, dans tout ce qu'on aborde et tout ce qu'on traite au travers du changement climatique, c'est pas des réponses qu'on peut apporter clé en main tout seul. C'est avant tout un travail de mise en commun et de réflexion commune, et de trouver une direction où chacun y trouve son compte. C'est vraiment une création de chaîne de valeur, histoire qu'il n'y ait pas justement des réticences et que quelqu'un bloque. Donc évidemment, mettre en place et améliorer une filière, c'est des choses qui demandent du temps et aussi de l'investissement. Mais globalement, quand on voit les progrès qu'on fait sur le recyclage depuis 10-15 ans, il y a des perspectives qui sont quand même extrêmement intéressantes. Et puis après, il y a quasiment l'angle opposé, c'est de dire, dans la manière qu'on a de concevoir les systèmes aussi, on commence néanmoins de plus en plus à intégrer la fin de vie, ce qui, il y a, on va dire, 20-25 ans, était quand même assez peu le cas. Mais c'est pas spécifique au ferroviaire, hein, c'est vraiment un peu partout.
La même chose avec les éoliennes ou...
Donc il y aura probablement un effet aussi boule de neige, puisque ben, ces systèmes qui vont arriver en fin de vie ont été pensés pour plus facilement être recyclés, avec moins de matériaux composites ou des matériaux composites qu'on peut plus facilement recycler. Donc il y a un potentiel écologique derrière qui est assez intéressant. Est-ce qu'on recyclera tout? Probablement pas, ça semble un peu utopique, ça serait beau, ça serait bien, mais on pourra a priori en recycler quand même beaucoup.
Une petite question métaphysique pour conclure cette conférence. Quel impact environnemental dans une vision coût carbone globale de ces nouveaux outils digitaux et les outils d'exploitation? Donc c'est ouvert. Et pourquoi partir du principe qu'il faut, la métaphysique vient après, pourquoi partir du principe qu'il faut courir la course de l'innovation à tout prix en épuisant les ressources? Est-ce que c'est forcément opposable, l'épuisement des ressources et l'innovation?
Alors, je vais répondre en commençant par la deuxième partie de la question. Si on regarde les sciences de la conception de l'idée sur la thématique, alors purement recherche, hein, recherche en sciences de la conception, les thématiques les plus en vue, celles qui ont le plus de traction aujourd'hui, les plus à la mode d'une certaine manière, il y a toujours des querelles de chapelle, enfin c'est comme partout, on touche quand même à tout ce qui va être plutôt low-tech, tout ce qui va être innovation frugale, innovation plutôt système que purement technique. On a parlé tout à l'heure d'économie circulaire. Tous ces thèmes-là sont des éléments qui tendent à se structurer énormément au cours des dernières années. Donc je ne crois pas que la course à l'innovation doit forcément pousser à aller développer des systèmes systématiquement plus complexe. C'est vrai qu'au cours du temps, les systèmes ont tendance à se complexifier, c'est assez, assez logique. Mais je pense qu'il y a aussi une réflexion sur si on complexifie quelque chose, il faut que ça ait du sens derrière. Ce qui, par le passé, à mon sens, mais alors là, c'est très subjectif, était moins le cas.
Eh bien, on restera sur cette subjectivité assumée. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel, merci Pierre-Étienne, merci à vous Estelle, merci Michel, merci à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis. Si ça vous a plu, si vous avez des amis qui n'ont pas pu être présents ce soir, eh bien, le replay sera disponible très très prochainement. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, eh bien, les intervenants y répondront par écrit très prochainement. Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous et à bientôt.
Merci d'avoir écouté ce podcast replay. Faites-nous part de vos commentaires, suivez notre actualité sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter et retrouvez l'ensemble de notre offre sur notre site monudi.com. À très bientôt à l'Université de l'Ingénierie.